encore nous réencourager à lire l'évangile de Matthieu chez nous tranquillement, au fur et à mesure. On va le parcourir jusqu'à Noël. Et aussi de ne pas rater un des enseignements du dimanche matin. Ça peut arriver exceptionnellement qu'on ne puisse pas se rendre ici ou être en ligne, mais les messages sont mis sur le site de l'Église, et donc allons les écouter pour continuer de baigner dans ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Et donc, on en est au quel chapitre déjà aujourd'hui? Merci, il y en a qui suivent. Chapitre 3 aujourd'hui. Ah ben c'est écrit. C'est facile. Bon. J'ose demander, est-ce que tout le monde l'a lu? C'est pas ce qu'il y a de plus long en termes de quantité. On va commencer par prier. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta sainteté. Tu nous as rappelé ce matin, Seigneur. Merci pour ton pardon et ton amour déversé dans ton Église, jour après jour, Seigneur. Matin après matin, tu ne te lasses pas de pardonner. Tu ne te lasses pas d'aimer. Tu ne te lasses pas de nous sanctifier, Seigneur. Et ce matin, je prie que ta parole, Seigneur, continue son œuvre en nous, Seigneur, afin que l'on porte du fruit digne de la repentance et qu'on te rende gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ben, on va commencer par le lire alors. Ah, vous appelez à ma place, s'il vous plaît. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs, du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. On continue. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » On continue. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Quel beau texte, quel texte magnifique. Je vous laisse revenir à la première slide, le début du texte, et jongler en fonction de ce que je vais dire. Ce matin, je voudrais proposer deux points. Alors, je nous rappelle que nous suivons qui est Jésus, d'accord, au travers de l'évangile de Matthieu. Il y a tellement de choses à dire quand on ouvre la Bible, et là, on se focalise sur Jésus. Et les deux aspects essentiels, il y en a un troisième, bien sûr, après, mais c'est, je voudrais reparler encore de la royauté. C'est super parce que ce matin, le premier chant qu'on a chanté, c'était proclamer Jésus était roi. Donc la première chose qu'on va voir au travers de ce texte, c'est la royauté de Jésus. Et la deuxième, c'est que oui, c'est un roi, mais ô combien il est humble. Et on va voir combien ce texte transpire l'humilité de Jésus, de notre roi. Et je trouve qu'il y a un contraste assez fort, justement, ici. Et on finira avec le final, l'apothéose, la divinité de Jésus. Alors, Jésus est le roi. Je ne sais pas si vous avez vu la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ça date maintenant. Ah, les jeunes, ils suivent encore. Mais il y a un événement qui est attendu tout au long des trois volets. C'est d'ailleurs le titre du troisième. C'est le retour du roi. Le retour du roi. Et en fait, avec les trois premiers chapitres, j'espère que vous vous souvenez ce qu'on a lu la semaine dernière, mais Matthieu, c'est ce qu'il annonce là. Il est là. Il est là. C'est celui qu'Israël attendait pendant des siècles. Il est là, enfin, celui qui fait soupirer toute la création sur terre. Emmanuel est ici. Au début du chapitre, Matthieu renforce cette idée que Jésus fait l'objet d'un accomplissement prophétique énorme. On l'a lu dans les chapitres 1 et 2, sa naissance est accompagnée de plein de prophéties, de visitations angéliques, il y a même une étoile un signe dans le ciel avec l'étoile qui arrive. Et au début de ce chapitre, en fait, Matthieu va aussi employer un vocabulaire un peu spécifique, il va dire « paru Jean-Baptiste », il va dire aussi « et avait été annoncé par le prophète ». Et on est bien dans une situation où il y a quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se passer. Et on est forcé de réaliser, avec ces trois premiers chapitres de Matthieu, que on est dans un moment exceptionnel de l'histoire de l'humanité. On est dans ce moment où les promesses de Dieu, qui avaient été annoncées année après année, pendant des siècles, sont en train de s'accomplir les unes derrière les autres. Et ce n'est pas que des prophéties, en fait, parce que tout l'Ancien Testament, au travers des paroles prophétiques, mais aussi au travers des personnages, aussi au travers des symboles, aussi au travers des situations que peuvent vivre les personnages, aussi au travers des constructions, quand on pense au tabernacle, au temple. Tout ça était là pour annoncer la venue d'une personne. Et c'est lui. C'est Jésus-Christ. Et je crois que Matthieu, il est dans cet état-là de nous dire, eh, c'est maintenant, il est là, il est arrivé. Ce qui est extraordinaire quand on lit la Bible du début à la fin, c'est qu'en fait, toute l'écriture va pointer vers une personne. Cette personne, c'est bien sûr Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 1, 20, c'est une slide normalement, il est dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus-Christ, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Ce serait avec plaisir. Il faut bien comprendre qu'au moment de la venue de Jésus, nous sommes dans ce moment très particulier de l'histoire où l'ombre des choses anciennes, eh bien, elles prennent pleinement leur sens. Jésus, je vais donner quelques exemples, est l'Abraham, le père de la foi. Jésus est l'Isaac, l'enfant de la promesse. Jésus est le Jacob, celui qui reçoit l'héritage. Il est Melchisédek, le grand prêtre. Il est Moïse qui délivre son peuple. Il est Josué qui nous fait entrer dans la terre promise. Il est aussi Canaan, la terre promise. Il est le temple qui nous permet d'entrer dans la présence du Père. Il est la vigne fertile, le cep sur lequel tout le monde doit être greffé, juif et non juif, pour devenir enfant de Dieu et porter du bon fruit, comme le texte nous le rappelle. Merci. Du bon fruit pour le royaume de Dieu. Au verset 8 à 10, on a lu « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » C'est ça le bon fruit, c'est le fruit que la repentance va produire en nous. « Et ne prétendez pas en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. » Et là, je crois que Matthieu, en ce qui concerne le plan du salut de Dieu, nous met tous au même niveau. Tout le monde a besoin de Jésus comme son roi et sauveur. On pourrait continuer très très longtemps, en fait, avec toutes les images de l'Ancien Testament. Et Jean-Baptiste, lui, dans ce texte, dira de lui-même qu'il est juste là pour préparer le chemin du Seigneur, encore une fois, de ce roi qu'on attendait depuis longtemps. À côté de Jésus, il n'est rien qu'un simple serviteur. Il dira pas même digne de toucher sa chaussure, son soulier. Et pourtant, Jésus dira autre chose de lui. Quand on va un petit peu plus loin, Matthieu 11, 11, Jésus dira, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Jésus déclare que Jean-Baptiste est le plus grand. Pourquoi il déclare cela? Tout simplement parce qu'il annonce la venue du roi. Et contrairement à tous les autres prophètes, eh bien le roi, il vient, il est là, il est là, il est là. Et ça change tout, ça change tout. Et en cela, il est le plus grand des prophètes, parce qu'il l'annonce et le voilà. David et Salomon étaient les plus grands rois, on peut dire, d'Israël. Pourtant, eux aussi, ont fléchi le genou devant ce roi-là qui arrive, devant Jésus, et l'appelle Seigneur. Jean-Baptiste, au verset 11, déclarera, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Jésus est le roi de toute la terre. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Matthieu nous dit là que son jugement, ce sera le dernier. C'est lui qui jugera en dernier toute chose. Il amassera son blé, son peuple, ses enfants. C'est lui qui les ramassera auprès de lui. Et aussi, il brûlera la paille. Tous ceux qui rejettent le Seigneur Jésus comme roi seront brûlés comme de la paille dans un feu qui ne s'éteint pas, la Bible nous dit. Jésus est celui qui dira, toi, tu viens avec moi auprès du Père. Et toi, tu iras dans le feu qui ne s'éteint pas. Ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que Matthieu n'attend pas le dernier volet de la trilogie, de son épître, de l'évangile, pour annoncer cela. Il annonce la couleur dès le début. Jésus est le roi et c'est lui qui va te juger. Dès le début, il annonce celui qu'il faut craindre et qu'il convient d'obéir. Peut-être qu'avec le christianisme moderne, nous avons tendance à mettre la royauté de Christ en dernier dans nos vies, pas forcément à la première place. D'abord, Dieu vient, me fait du bien, il me guérit, il me bénit, il me fait du bien, et après, si je suis de bonne humeur, je lui laisserai la place du roi. Et je crois que Matthieu, avec ce chapitre, nous dit non, non. Et non, Christ est roi en premier, avant toute chose. Et si vous avez raté le message de David du week-end de rentrée, allez le réécouter. C'est ce qu'il développe dans ce message. Si les pierres se taisent, non, si vous vous taisez, les pierres crieront. Jésus est roi. Ensuite vient le reste dans notre vie. Ensuite, bien sûr, il me guérit. Ensuite, il me délivre, il me bénit. Tout cela est second et deuxième et découle du fait premier que Christ est roi. Amen. On va prier. Seigneur, merci de nous rappeler que tu es le roi de nos vies. Qu'on l'accepte ou pas d'ailleurs. Ta royauté ne dépend pas de nous, Seigneur, ou de notre acceptation. Tu es le roi, tu es celui que toute la terre attendait, Seigneur. Et tu es venu pour régner, pour apporter le royaume de Dieu ici-bas, et pour nous ouvrir le ciel et nous amener auprès du Père. Merci d'être le roi dans nos vies, Seigneur. Et apprends-nous encore, jour après jour, à te laisser cette place, Seigneur. Amen. Jésus est roi, et c'est un roi qui est humble. Et je voudrais qu'on passe un peu de temps sur cet aspect-là. Pour moi, ce chapitre transpire l'humilité. Je crois que je me suis retrouvé plusieurs fois en préparant ce message à pleurer devant la façon dont Jésus peut être humble avec nous et sur cette terre. Il y a une slide normalement sur l'humilité. Merci. Tant pis. En latin, ça vient, le mot humilité qu'on a en français vient du latin humilis ou humus. Et en fait, ça veut dire bas ou la terre. Les deux racines, c'est bas et la terre. Et on sait que Jésus s'est dépouillé de la gloire céleste et s'est abaissé à s'incarner en homme et à devenir un enfant de la terre. Adam, en hébreu, vient du mot Adama et qui veut dire la terre, le sol. Dans le dictionnaire, on trouve. Bon, il ne faut pas que je me retourne en fait. On trouve cette définition de l'humilité et il est dit, c'est un sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances et de ses faiblesses, et est porté à rabaisser ses propres mérites. Donc quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances et de ses faiblesses, et qui est porté à rabaisser ses propres mérites. Et ce que je voudrais ce matin, c'est qu'on se rende bien compte combien Jésus dépasse complètement cette définition humaine de l'humilité. On a dit, avoir conscience de ses insuffisances. Jésus, lui, au contraire, avait pleinement conscience de son autosuffisance. Il était autosuffisant avec le Père et avec l'Esprit. On a parlé avoir conscience de ses faiblesses. Jésus avait pleinement conscience, au contraire, de sa toute-puissance. Et malgré cela, il a quand même choisi de se rabaisser du ciel vers la terre. Non, Siri, je ne veux pas que tu me parles. Au niveau de l'humanité, pour souffrir pour elle et la sauver. Dans Philippiens 1, 2, prenez vos Bibles du coup. Le PowerPoint ne marche pas. Si vous voulez suivre, Philippiens 2, verset 5. Paul nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Jésus était Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Est-ce qu'on réalise? Dieu devenu homme, quelle humilité, quel rabaissement vers la terre. Et ayant paru comme un simple homme, Paul rajoute, il s'est humilié lui-même. Waouh, Seigneur, waouh, quelle leçon tu nous donnes là. Et je ne sais pas pour vous, mais moi en tant que roi suprême de l'univers, non, vous avez du mal à m'imaginer comme ça. Ben, je pense que j'aurais choisi quand même peut-être César, le roi le plus puissant de la terre, pour m'annoncer. Je ne sais pas ce que vous auriez fait, vous. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Son messager, c'est qui? C'est Jean le Baptiste. Un gars qui vient d'un trou paumé, vêtu de poils de chameau et qui mange des sauterelles. Heureusement, il mange du miel. Et qui vit dans le désert. Waouh! On a parlé des serviteurs de Bathsheba qui a été impressionné par les serviteurs de Salomon, la reine de Saba. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. C'était son père. Pardon, la reine de Séba. Impressionnant, impressionnant. Je ne sais pas si... Il faut qu'on se laisse impressionner par les textes. Il y a cette phrase qui n'a l'air de rien, mais le fait qu'on nous dise qu'il soit vêtu de poils de chameau, qu'il mange des sauterelles, waouh. Ce n'est pas de Jean-Baptiste qu'on est en train de parler là. C'est de l'humilité de notre roi. Waouh! Qui c'est qui l'annonce? C'est lui qui l'annonce. Il est annoncé par un monsieur personne, entre guillemets. Après être né dans une étable, dans la plus petite, une des plus petites villes de Juda, après avoir été caché en Égypte, après avoir grandi comme fils d'un charpentier, Jésus, le grand roi de l'univers est annoncé par, on pourrait dire, un rebut de la société. Quelle leçon d'humilité! Quelle leçon d'humilité! Et ça ne s'arrête pas là, bien sûr. On peut retourner au verset 13 du chapitre 3. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Il se fait baptiser. Est-ce que vous vous êtes arrêté sur ça 2 minutes? Il se fait baptisé. Est-ce qu'on comprend pourquoi Jean est opposé à ça? Est-ce qu'on le comprend? Rappelez-moi, pourquoi est-ce qu'il baptisait Jean? Pour le pardon des péchés. Ça ne vous a pas choqué? Si, j'espère. On a dit plusieurs fois « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Même s'il ne comprenait pas tout, je parle de Jean là, puisqu'on voit bien plus tard dans l'évangile de Matthieu qu'il va demander « Mais es-tu celui qui devait venir, au fait ?» Donc il n'avait quand même pas tout compris. Mais Jean savait que ce Jésus était spécial, qu'il n'était même pas digne de toucher ses souliers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jean baptisait pour le pardon des péchés. D'accord ? On est dans un contexte comme cela. Et il y avait beaucoup de monde qui venait pour se faire baptiser par Jean. Et Jésus vient comme cela aux yeux de tous, approcher Jean pour se faire baptiser, pour que Jean effectue le même geste qu'il est en train de faire avec tous les autres, avec Jésus. Et Jésus, il ne va pas se justifier, il va répondre « Faisons, faisons ce qui est juste ». En passant par les eaux du baptême, Jésus, en fait, j'ai envie de dire ce matin, il ne prenait pas le même bain que les autres. Mais ça, seulement lui le savait. Seulement lui le savait. Dans Lévitique 8, on ne va pas prendre le texte, mais vous le prendrez chez vous. On trouve ce texte de la consécration d'Aaron et de ses fils pour le service dans le tabernacle. Et que fait Moïse? Au tout début, il commence par les laver avec de l'eau. En passant par les eaux du baptême, Jésus accomplit ce rite de la loi de Moïse qui fait de lui un souverain sacrificateur, capable d'aller dans le Saint des Saints. Voilà le sens du baptême de Jésus. Et ce n'est pas tout. Encore dans Lévitique, peut-être je vais vous donner envie de lire le Lévitique, dans Lévitique 1, 9 à 13, il est parlé des offrandes expiatoires. Et qu'est-ce qu'on fait à ces offrandes-là? Eh bien, on doit les laver. On doit les laver. L'animal sacrifié pour le pardon des péchés doit être lavé. Et Jésus savait bien qui il était. Il savait bien qu'il était cette offrande pour l'expiation de nos péchés. Et il fallait donc qu'il passe par les eaux. Voilà la deuxième raison pour laquelle Jésus s'est fait baptiser. Et enfin, Jésus, homme, se substitue pleinement à la race humaine. Il s'identifie pleinement à la race d'Adam pour la justifier pleinement. Alors qu'il n'a jamais péché, il s'identifie au pécheur pour porter en lui le péché de l'humanité et le détruire à jamais. Dans 2 Corinthiens 5, 21, il nous est dit « Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, ah, ça y était, tu reviens en arrière ?» Bon. Je te laisse le trouver, 2 Corinthiens 5. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. Ce « il », c'est le Père. Pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien sûr, dans ce verset, il n'est pas question que Jésus pêche pour devenir péché, mais c'est une expression pour dire qu'il a porté sur lui le péché de l'humanité. Et dans tout cela, personne ne perçoit rien du tout. Tout ce présent, à mon avis, pensait très vraisemblablement que que Jésus vient pour se confesser, confesser ses péchés et demander pardon à Dieu, comme le faisait tout le monde. À ce moment-là, Jésus n'en avait rien à faire de sa réputation. Il ne se justifie pas. Il était là pour nous justifier, nous. Il dit juste, faisons ce qui est juste. Et ça voulait dire, faisons ce que Dieu a ordonné. Alors ce matin, je voudrais nous interpeller par rapport à l'humilité de Jésus. Où en sommes-nous personnellement par rapport à cela? Après quelle gloire, quelle reconnaissance courons-nous dans nos vies? Cherchons-nous toujours à faire ce qui est juste, c'est-à-dire obéir à Dieu, ou sommes-nous trop centrés sur ce que les autres vont dire ou penser? Sommes-nous prêts à vivre notre vie chrétienne dépouillée de toute gloire, en nous dépouillant volontairement? Parce que Jésus s'est dépouillé volontairement, en acceptant d'être petit, en acceptant de nous abaisser nous-mêmes pour élever celui qui est à côté de nous, pour élever Christ le roi dans notre vie. Sommes-nous prêts sincèrement à suivre ce Jésus roi mais humble? En priant pour cette année, il y a eu un certain nombre de paroles qui ont été reçues, qui ont été données, et je voudrais en rappeler trois ce matin. Une, c'était le Proverbe 8, 14 à 16. Normalement, elles y sont aussi. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Par moi, les rois règnent et les dirigeants ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Est-ce que nous acceptons d'être cette Bethléem, cette petite de qui sort ce grand roi, celui qui règne? Acceptons-nous de ne pas avoir la force, la puissance, mais que ce soit lui qui soit le fort et le puissant dans notre assemblée, et nous être simplement des serviteurs. La deuxième parole, c'est dans Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. C'est lui qui bâtit. Il est le maître, l'architecte. Nous ne sommes qu'à sa suite. Nous ne sommes pas devant. Et la troisième, c'est dans Proverbe 15, au verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Les grandes choses et la gloire de Dieu ne viennent qu'alors que nous nous humilions devant lui et reconnaissons que c'est lui qui fait. Je voudrais nous inviter à prier. Et puis après, on va terminer avec Jésus et Dieu. Saint-Esprit, c'est juste incroyable combien Jésus est humble. Quelle humilité d'avoir laissé le ciel, d'avoir laissé d'être égal à Dieu et d'être venu s'incarner dans une chair humaine. Quelle humilité tu nous as montré, Seigneur Jésus, tout au long de ta vie sur terre, et en particulier pendant ce moment où tu t'es fait baptiser. Merci Seigneur parce que tu n'as pas regardé à ta réputation, tu n'as pas regardé à ta royauté, à ta majesté, à ta splendeur. Mais tu as regardé à ce que le Père t'avait demandé d'accomplir pour nous. Mourir sur cette croix et porter notre péché. Saint-Esprit, nous te le demandons Rends-nous humbles, rends-nous humbles encore plus devant notre roi. C'est difficile d'avancer parfois face à ce que qui est Jésus. C'est juste extraordinaire. Il est juste incroyable. J'espère que ça vous ému, comment on dit, vous êtes ému aussi quand vous lisez la parole de Dieu et que vous découvrez qui est votre Seigneur. C'est un être vraiment incroyable. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà le grand final du chapitre 3. Jésus est Dieu. Jésus sort de l'eau et les cieux s'ouvrent. Waouh! À chaque fois que les cieux s'ouvrent, en général, c'est parce que Dieu veut révéler quelque chose. Et là, je ne crois pas trop m'avancer en disant que c'est la plus grande révélation de Dieu qui ait jamais eu lieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Waouh! Waouh! Réunis. Emmanuel est là. Matthieu est en train de nous expliquer qu'avec Jésus, nous voyons enfin la pleine représentation de Dieu. Sans Jésus, nous connaissons de loin, très partiellement. Nous regardons des yeux, mais nous ne voyons pas. Nous entendons de nos oreilles, mais nous ne comprenons pas. Jésus est la clé de lecture qui permet d'accéder à la compréhension de Dieu. Paul dira dans Colossiens 2 au verset 9, car en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est pour ça qu'il fallait Jésus pour que nous ayons cette pleine révélation. En Jésus et par Jésus, nous comprenons que Dieu se révèle comme le Père, le Fils et l'Esprit. C'est pour cela que toute foi, la foi, toute religion, toute foi qui rejette Dieu le Fils demeure dans l'égarement, dans les ténèbres, loin de Dieu. Le seul chemin vers Dieu, c'est par Dieu le Fils. Et alors que Matthieu expose cela, cette vérité avec laquelle on ne peut pas déroger, eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Dieu le Père parle et il dit, je place tout mon amour dans un seul être, mon Fils. On sait que Dieu est amour et il place la plénitude de son amour dans le Fils, qui va maintenant accomplir l'expression la plus forte de l'amour de Dieu pour les hommes. Le Fils va maintenant déverser l'amour de Dieu en guérissant, en délivrant, en consolant, en réconfortant, en rendant la justice, etc., etc. Et il va finir avec une apogée en s'offrant lui-même pour anéantir à jamais le péché et la mort. Dieu va libérer et ramener auprès de lui pour toujours ses enfants, dont Jésus-Christ est le premier de tous les frères. Voilà le grand final du chapitre 3 de Matthieu. Jésus est le grand roi. Amen. Il est le grand roi humble. Humble. Il est Dieu Il est Dieu clairement dans ce chapitre. Dieu le Fils paraît à déverser la plénitude de l'amour de Dieu. Voilà comment finit Matthieu chapitre 3. Amen. Suite au prochain épisode. Tadam! Je te laisse finir par la prière.